Roche-Beaubois dédie ce message à tous ceux que le design fait rêver. En ce moment, ce sont les 10 jours tentation. 10 jours pour découvrir la créativité des nouvelles collections et profiter de prix très séduisants sur une sélection de meubles et de canapés Roche-Beaubois. Mais ne perdez pas de temps. Les prix tentation Roche-Beaubois, c'est jusqu'au 20 mars seulement. Liste des magasins ouverts ce dimanche sur rochebeaubois.com.
France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Ploudalmézo, l'après-marée noire. C'est le titre du troisième volet de la série que consacrait en 1993 le pays d'ici au naufrage de l'Amoco Cadiz. Cette marée noire, c'était 440 000 tonnes de matières vivantes détruites, 26 000 tonnes d'animaux morts, 30% de la faune et 5% de la flore marine anéantie sur 1300 km². Que reste-t-il aujourd'hui des 228 000 tonnes de pétrole brut déversées en 1978 ? Plus grand-chose en apparence. Les côtes bretonnes ont retrouvé depuis longtemps leur aspect initial. Mais si le temps et la nature ont certes fait leur œuvre, il est quasiment impossible de mesurer toutes les conséquences d'un tel désastre écologique. Même quand les hydrocarbures ont disparu, les travaux de nettoyage ont souvent irrémédiablement modifié des paysages. Si l'on essorait la Bretagne pour récupérer le pétrole de l'Amoco, on n'obtiendrait pas de quoi chauffer une maison pendant l'hiver. Imaginez, 20 ans après le naufrage, Bernard Fichot de l'Université de Bretagne occidentale. Mais Claude Chassé, océanographe biologiste au CNRS, expliquait à la même époque que le pétrole avait agi sur les populations marines, comme la guerre de 14 sur la démographie française. Que des années après l'hécatombe, le manque de fertilité était toujours perceptible.
Dans les jours qui ont suivi la marée noire, le poisson était là. Le poisson, lui, n'a pas été pollué. Il se baladait entre les nappes de mazout, là, pas de problème. Il n'allait pas où il y en avait. On a ressenti les effets de la marée noire sur la pêche plutôt à partir du printemps. Effectivement, on pêchait des raies qui étaient maigres. Il n'y avait que l'arête, il y avait la peau dessus. Les raies étaient très maigres. Et les années, les 2-3 ans après. On a recommencé à faire le chiffre d'affaires qu'on faisait l'année qui a précédé la marée noire, en 82.
50. Vous êtes à quelle profondeur aujourd'hui, l'Amoco ?
Il doit être à 30 ou 40 mètres de fond.
Et qu'est-ce qu'il en reste ?
Certainement, il reste la carcasse, il reste la ferraille, quoi. Hein, Mais il paraît que c'est un vivier à poissons actuellement, puisque donc il y a un périmètre donc interdit à la pêche. Et donc les algues, la flore donc a pris ses droits et la flore donc entraîne la faune également. Quoi, hein. Il paraît que moi, en homard, en poisson, c'est un vrai vivier.
Le pays d'ici est donc en direct de Port-Salle sur les lieux de la plus grande marée noire du siècle en 1978. Souvenez-vous, mardi, première émission, il y a 15 ans, l'Amoco Cadiz, émission du souvenir. Hier, la bataille, le feuilleton juridique contre l'Amérique, histoire d'un procès. Et aujourd'hui, l'après-marée noire. Parce que dans les semaines qui suivirent la marée noire, bénévoles et officiels nettoyèrent les grèves mazoutées avec des seaux et des pelles. Mais l'impuissance finit par les gagner et la mer termine termina le travail. On devait relever 260 000 tonnes d'animaux morts. Aujourd'hui, plus que jamais, trois nouvelles marées noires, la Corogne, les îles Shetland, les côtes de Sumatra, réactualisent le problème de la navigation des pétroliers dont on accuse la sous-qualification des équipages et la vétusté des bâtiments, au point que le dossier des bateaux poubelles est devenu prioritaire à Bruxelles. Donc aujourd'hui, pour cette troisième émission du Pays d'ici, en direct et en public de la mairie de Ploudalmézo, bilan d'une catastrophe écologique et puis avec quelques questions qui s'imposent. Tout nouveau danger est-il écarté? Quelles sont les réglementations récentes de circulation au large de la Bretagne qui a largement payé son tribut aux compagnies pétrolières? Avec en direct avec nous, Marthe Melgen, qui est directrice du CEDRE, elle nous dira ce que ça veut dire. Alphonse Arzel, qui nous reçoit depuis le début de la semaine, qui était notre invité hier, et qui est sénateur-maire de Ploudalmézo. Et Philippe Ducouédic, qui est directeur du Cross-Corsen, il nous dira aussi ce que ça veut dire. Alors d'abord, monsieur Arzel, aujourd'hui nous allons évoquer les conséquences de la marée noire. Vous dites, comme tout le monde, qu'elles sont diverses et qu'elles sont importantes. Alors dans l'ordre, est-ce qu'elles sont d'abord importante sur le plan de l'économie de la région, sur le plan des comportements et des mentalités ou sur le plan de l'écologie et de la nature?
D'abord, sur le plan de l'économie, cette catastrophe a quand même porté un préjudice certain, on en parlait hier, sur le plan du développement du tourisme. C'est vrai que pendant des années, nous avons ressenti l'effet de cette catastrophe sur l'attitude des gens. Autant la première année, on était venus voir, autant pendant plusieurs années après, eh bien, les gens ont un peu fui notre région. Et il a fallu beaucoup d'efforts, beaucoup de crédits, que ce soit la région, que ce soit le département et nous-mêmes. On a beaucoup investi pour redonner cette image de marque que nous avions avant la catastrophe. Donc, ça a été certainement un grand préjudice qu'on n'a jamais d'ailleurs fait, on a pu faire prendre en considération par le juge Maggard. On ne comprenait pas qu'un homme intelligent comme lui n'ait pas pu reconnaître qu'effectivement, on avait eu beaucoup de dégâts à ce niveau-là. Mais il était toujours avec ses factures et en dehors de ça, il n'accordait rien. Mais c'est vrai que même quelques années plus tard, on retrouvait encore des traces de pétrole. Ça a duré plusieurs années. Mais il était piégé, le pétrole, et il restait là où il était. Puis comme c'est un produit naturel, il a fini par disparaître pour de bon.
Alors, monsieur Arzel, oui, c'est vrai, les métiers du tourisme, on en parlait hier, mais il y a aussi les métiers de la pêche dont on a parlé tout au long de la semaine. Et ce qui est frappant, c'est de dire qu'on ne pêche plus de la même façon quand même sur vos côtes. C'est-à-dire que tout ce qui était pêcheur vieillissant, enfin au bord de la retraite et qui avait un matériel qui était lui aussi vieillissant, eh bien ce sont des activités qui ont été amenées à disparaître peut-être plus vite qu'elles n'auraient pu disparaître s'il n'y avait pas eu la marée noire.
C'est possible, mais il y avait quand même, je crois que c'était une évolution déjà amorcée. C'est vrai qu'on n'a pas retrouvé sur nos côtes des poissons que l'on pêchait avant. Par exemple, pendant longtemps, on n'a plus vu de plis ni de sol dans cette partie qui se découvrait pas quand il y a des marées. On a vu disparaître toute cette faune, poissons plats qui vivaient dans le sable, tout près du bord. Par exemple, les lançons, moi je me rappelle de ces parties de plaisir que nous avions en été quand on allait la nuit à la pêche aux lançons, parce que c'est un poisson, genre d'anguillette, qui est phosphorescent. Et que l'on pouvait ramasser facilement, on faisait une croix dans le sable et ça sautillait et on ramassait plein de paniers. Eh bien, après la catastrophe de la Moko, nous n'avons pas vu trace de ces lançons pendant des années. Donc, il y a quand même eu, c'est vrai, une modification de la faune. Mais par contre, et ça nous a été reproché un peu, il n'y a jamais eu autant de crevettes. C'est-à-dire que les crevettes servaient à nourrir les autres poissons. À partir du moment où ils n'existaient pas, eh bien les crevettes se sont développées et il y a eu beaucoup de pêches de réaliser.
Elles ont proliféré. Oui. Alors, question que je pose à vous trois, c'est vrai que c'est intéressant de se pencher sur les comportements de cette région. Alors, il semblerait, je le tiens de quelqu'un avec qui je parlais de ça, qu'il y ait eu des changements dans les mentalités de la région. Que, par exemple, on a pris le goût du travail en commun. Est-ce que c'est vrai, monsieur le directeur du Cross-Corsen? Est-ce que c'est vrai que depuis la Moko, on travaille finalement de Brest à Dinan, qu'il y a une espèce d'unité régionale qui n'existait pas?
Oui, sans doute. Enfin, dans le domaine de la mer, c'est vraisemblable. Je ne sais pas comment ça se passe à terre, mais je crois que, bon, dans le domaine des pêches, dans le domaine des cultures marines, toutes ces questions d'environnement ont certainement amené un lien entre les différents participants.
Une sorte de rapport quand même plus collectif au travail. Et vos intérêts à défendre?
Je crois que notre structure syndicale mixte a été fédérateur d'un tas de choses. Et c'est vrai, bon, que ce soit le CEDRE, que ce soit IFREMER, que ce soit la Marine, nous avons eu des rapports beaucoup plus, je ne sais pas, plus chaleureux, parce qu'on avait été appelés à travailler ensemble dans une même cause.
Marthe Melgen, est-ce qu'on a appris à se connaître, justement, depuis la MOCO?
Madame, je n'oserais pas du tout généraliser ce que vous venez de dire. Je crois qu'il y a eu une solidarité extraordinaire autour, justement, du syndicat mixte qui s'est occupé de cette question pendant très longtemps et de tous les gens qui, de loin ou de près, ont touché le problème de la MOCO. Maintenant, ne généralisons pas. Je ne sais pas si on peut dire que pour tous les secteurs d'activité, il y a eu un changement. Ça, je ne crois pas.
Alors, est-ce que l'on peut dire, là aussi, sans généraliser, mais en essayant de s'approcher quand même d'une vérité relative, est-ce qu'il y a un esprit qui est davantage dirigé vers l'écologie et la protection de l'environnement depuis la MOCO?
Est-ce qu'on peut dire que c'est depuis la MOCO? Ça, je crois que c'est quand même beaucoup dire. D'une façon générale, dans tous les pays, prenons les pays du nord de l'Europe, cette sensibilité à l'écologie a cru il y a déjà plusieurs années et ils n'ont pas eu la MOCO. Par ce biais-là, nous étions peut-être encore en retard.
Monsieur le directeur du Crosspersen.
Oui, c'est pas forcément un effet déclencheur, mais je crois que ça a accéléré beaucoup de choses. Et notamment une prise de conscience des menaces qui pesaient sur notre environnement direct.
Oui. En tout cas, il y a eu la mise en place d'investissements qui sans doute ne seraient pas venus aussi vite s'il n'y avait pas eu cet accident.
Alors ça, absolument, quand on parle du CEDRE et du Crosscrossen, ça nous allons voir ça dans une seconde partie de l'émission, parce que c'est vrai que cette catastrophe a eu des incidences sur le plan de l'économie et peut-être aussi des comportements. Et puis c'est vrai aussi qu'on ne circule plus tout à fait de la même façon, qu'on ne surveille plus la mer de la même façon, qu'on ne fait plus payer les pollueurs de la même façon depuis la MOCO Cadiz. Ce qui nous a intéressé, à nous en tout cas qui avons enquêté dans la région, c'était de savoir ce que disaient les principaux concernés de cette marée noire, enfin les principaux parmi les principaux concernés, les marins pêcheurs, justement des risques actuels de pollution. Par exemple, le point de vue de Pierre Féat, qui lui est installé à Cléder, vous allez entendre ce qu'il répond quand on lui demande à qui il en veut encore aujourd'hui des pollutions diverses.
À tous ceux qui continuent actuellement à polluer, je veux dire, à faire naviguer des pétroliers qui ne sont pas en état, hein, le Brun et l'autre à la Corogne, l'autre accident aux Philippines dernièrement, c'est tout ça, je veux dire, c'est tout ça qui nous fait peur, et c'est vrai qu'on leur en veut à tous ces gens-là de transporter en n'ayant qu'un seul but, gagner de l'argent à tout prix. Ça, c'est vraiment, ces gens-là, vraiment, on les haït.
On en veut au manque général de conscience professionnelle, je veux dire, parce que lorsque l'on affrète un bateau, la première chose, c'est d'être un marin. Et pour être un marin, eh bien, il faut d'abord s'assurer de la qualité de son bateau. C'est la première chose. Or, c'est vrai que c'est trop facile. C'est encore trop facile. Et moi qui fréquente la plage tous les jours, très souvent, je reviens avec du mazout sous les pieds, avec du mazout dans mon maillot de bain. Et ça, je trouve ça inadmissible, parce que c'est un manque de respect profond de l'homme, de la nature, c'est minable. Je trouve ça vraiment minable.
Monsieur Féat, vous vivez un peu dans la hantise, comme ça, d'une autre marée noire?
On y pense régulièrement. Je crois qu'on y pense effectivement régulièrement. C'est vrai que actuellement on travaille plus loin des côtes, mais on a une petite activité, pas secondaire, c'est de plaisance, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on, c'est vrai qu'on cueille un peu nos algues sur les rochers pour les manger, tout simplement, et que J'y pensais il y a peu de temps. Hein. Si de nouveau ça devait se produire, je ne sais pas de comment on réagirait, En tout cas, une chose, c'est que pour la pêche, on ne réagirait pas comme on a réagi à ce moment-là. On n'attendrait pas les subventions, on continuerait à travailler. Je crois que, parce que là, on s'est tellement moqué de nous, je veux dire qu'on ne va pas se laisser piéger deux fois. Mais je crois que toi, Béné, pour la côte, là, tu serais plus sensible.
J'aime cette côte, J'y vis en permanence. Je dirais même qu'à cause de la marée noire, j'ai appris véritablement à m'y attacher et presque à en être dépendante. Parce que c'est vrai que quand pendant plusieurs années, on ne peut pas se chauffer, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas véritablement aller vers d'autres centres d'intérêt, eh bien c'est vrai que pour m'aguerrir, il a fallu que j'aille tous les jours sur la dune par n'importe quel temps, que d'ailleurs maintenant je me baigne pour ainsi dire toute l'année, tous les jours, que j'ai appris à connaître les algues, que j'ai appris à les consommer, que j'ai appris à faire beaucoup de choses. D'ailleurs, j'ai même appris à transformer les produits de mon mari, tout simplement pour faire rentrer de l'argent, parce que c'est vrai que dès 79, 80, 81, 82, j'ai vendu de la soupe de poisson par grosse quantité à la maison, etc. Je veux dire, j'ai essayé par tous les moyens de m'en sortir. D'une façon ou d'une autre, il fallait qu'on s'en sorte. Alors c'est vrai que nous avons été particulièrement touchés du fait des circonstances de notre installation, etc. Mais je trouve que c'est profondément écœurant de voir la façon dont les côtes sont traitées. Je trouve ça écœurant, que ce soit à cause des gens qui polluent par le mazout, ça c'est le plus grave, mais je dirais même que tous les gens qui jettent des papiers par terre, qui cassent des bouteilles de bière, qui vident leurs cendriers sur les côtes, qui laissent les couches de leurs enfants où ils ont déféqué, je trouve ça inadmissible. Et je trouve qu'à tous les niveaux, nous sommes des pollueurs. Et que c'est vrai que les gens qui polluent la mer comme ça, eh ben, je pense que s'ils avaient été éduqués autrement, ils ne le feraient pas.
Marthe Melghen, qu'est-ce que l'on peut répondre à Bénédicte Féat qui, depuis justement cette catastrophe de la marée noire à laquelle elle a assisté, puisque ça s'est passé sous ses fenêtres, est encore plus attachée, plus amoureuse à sa région?
Oh, je crois, madame, quand on est breton, et c'est le cas des gens qui sont autour de la table, nous sommes tous très attachés à notre région, tous soucieux de voir cette Bretagne rester aussi belle qu'elle l'est. Ceci étant, ne donnons pas dans le catastrophisme. Je crois que depuis la Mococadiz en particulier, beaucoup de gens ont fait des efforts. Et d'abord, l'État français, il y a 14 ans, a mis en place et une organisation renforcée en matière de lutte anti-pollution, des centres spécialisés, des moyens de lutte. Aujourd'hui, nous voyons bien sûr certaines insuffisances poindre, et en particulier quant aux États-Unis, 14 ans après, la même sensibilité après l'Exxon Valdez s'est mise en place et beaucoup de moyens assez extraordinaires se mettent en place aux États-Unis. On aurait tendance à dire les Américains font mieux, mais enfin, la France a beaucoup fait il y a 14 ans.
Vous enviez un peu les moyens dont ils disposent. Alors, on en revient peut-être à l'organisme dont vous avez la direction. Il s'agit du CEDRE, qui est une association de loi 1901 qui est née en 1979. Alors bon, c'est vrai que depuis le travail est formidable. Est-ce qu'on n'a pas un tout petit peu quand même le regret de ne pas avoir existé avant la catastrophe plutôt qu'après la catastrophe ?
Oh oui, madame, mais il faut exister après, il faut continuer d'exister. Et nous avons surtout le regret de ne pas exister assez bien aujourd'hui. Il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Et les derniers accidents nous montrent que le risque persiste et que tous ensemble, nous devons essayer de faire mieux. Je crois qu'on a fait beaucoup, en particulier, on dit beaucoup de choses sur les navires, sur les hommes. La France en particulier, et je crois que le directeur du CROSS pourrait en parler mieux que moi, a fait beaucoup, beaucoup en matière de prévention des accidents. Je crois que la France est en première ligne sur ce point-là.
Alors, vous n'êtes pas en mesure, en tout cas aujourd'hui, de rassurer complètement les populations de cette région en leur disant plus jamais de marée noire.
Madame, le risque est lié à l'industrie. Où nous supprimons tout ce qui est industriel, il n'y aura plus de risque, où nous vivons avec. Je crois qu'il n'y a pas là d'autre solution.
Alors nous allons voir au cours de cette émission tous les progrès et toutes les avancées que vous avez faites. Je voudrais demander à monsieur Ducouédic, qui naturellement lui aussi porte un nom breton, un joli nom breton, ce que veut dire d'abord CROSS Corsen.
Alors CROSS, c'est Centre Régional Opérationnel de Surveillance et de Sauvetage. Et Corsen, c'est le lieu où ce centre est implanté. La pointe de Corsen, qui est la pointe la plus occidentale de la France métropolitaine.
Alors, c'est votre position?
C'est notre position,
C'est le bout de l'Europe, non pas de l'Europe, de la France.
Il n'y a pas plus ouest que Corsen. Bon, à part les îles, bien évidemment.
Alors, quel est votre champ d'observation?
Alors,
qu'est-ce qui se déroule sous vos fenêtres?
Alors, sous nos fenêtres, c'est un petit mot pour... notre fenêtre est grande, puisque nous allons du Mont-Saint-Michel à la pointe du Raz. Et dans cette large fenêtre, nous avons deux missions essentielles, qui sont la surveillance du trafic maritime et le sauvetage en mer.
C'est à peu près 450 km de côte?
C'est à peu près, oui, 450 km de côte. Et c'est pas tant les kilomètres de côte que la surface d'eau qui est devant cette façade maritime.
Alors vous aussi, vous êtes un enfant de la MOCO?
Alors moi, je suis un enfant de la MOCO puisque j'ai vécu ça dans des affectations antérieures. Et je suis un enfant de la MOCO puisque le CROSS, d'une certaine manière, les CROSS sont un peu des organismes qui ne sont pas nés avec des suites de la MOCO qui existaient auparavant, mais pour lesquels on a beaucoup fait à la suite de ces catastrophes des années 70.
Alors on dit, on a coutume de dire que cette mer dont vous avez la surveillance est un boulevard de mer extrêmement fréquenté.
Alors, il y a effectivement, c'est un boulevard, comme vous dites. En fait, dans le monde, il y a trois sites qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. C'est le détroit de Malacca et le golfe du Saint-Laurent, hein, qui présentent un trafic aussi important que celui que nous avons en Manche. Je vais donner un ou deux chiffres. Passent devant nos fenêtres tous les jours entre 800 000 et 1 million de tonnes de produits dangereux. Bon, c'est un ordre de grandeur, hein, ne chipotons pas à quelques milliers de tonnes. Et sur ce million de tonnes de produits dangereux, je rappelle tous les jours, il y a 70-80% d'hydrocarbures et le reste des produits chimiques. Ça va. Je ne vais pas vous faire une liste, mais c'est tout.
Parce que c'est vrai que ce qu'on n'a pas dit, mais enfin, je veux dire, tout le monde a la carte de France en mémoire, en tout cas ceux qui nous écoutent, c'est que la Bretagne a une exposition naturelle, toute naturelle, si je puis dire, aux diverses pollutions maritimes. Et vous disiez qu'il y a en plus un paramètre climatique qui fait que, eh bien, c'est vers la Bretagne que tout ça se dirige.
Absolument. Les dépressions arrivent de l'ouest et quand le mauvais temps sévit et qu'un bateau se casse, eh bien, l'issue, ce sont les côtes de l'Europe occidentale. Mmh. Et les côtes de l'Europe occidentale, c'est nous avant tout. C'est la péninsule ibérique, on l'a vu récemment, mais enfin dans des conditions un peu différentes, puisque c'était presque un problème portuaire. Nous sommes sur le front.
Monsieur Herzl, vous vous sentez mal placé ici?
Non, pas du tout.
Par rapport au pétrolier?
Non, ça me rappelle une chose, quand j'entendais monsieur le directeur parler de notre situation géographique, je me rappelle de cette attaque de notre avocat de la partie adverse, bien sûr, qui nous reprochait d'habiter là où on habite. Il avait l'air de dire que si la Bretagne n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu d'accident.
Oui, en Île-de-France, c'est plus rare, oui.
Oui, bien sûr. Vraiment, il faisait tout pour nous culpabiliser. On avait l'impression que lorsqu'on sortait de là, on n'était pas les victimes, mais nous étions les responsables de cette catastrophe. Ça, moi, je l'ai mal vécu. C'est comme si quelqu'un venait demain avec un camion heurter votre maison parce qu'il conduit mal ou bien qu'il y a une défaillance et qu'il vous dit ben, vous êtes responsable parce que vous n'auriez pas dû vous trouver là et je serais passé.
Monsieur Herzl, est-ce que vous vous sentez mieux depuis que les organismes, à la fois que le Cross Corsen et le CEDRE existent?
Oui.
Est-ce que les Bretons se sentent protégés, un peu racinérés, un peu rassurés?
Nous sommes plus rassurés, certainement. D'ailleurs...
Dans la salle, on dit oui, en tout cas.
Le temps a quand même démontré que les accidents sont devenus beaucoup plus rares depuis qu'il y a cette surveillance. On n'a pas à regretter, nous, d'accidents importants depuis la MOCO, en dehors du Tanio, qui était tout à fait quelque chose d'exceptionnel, puisque il y a eu explosion à bord. En tout cas, de problèmes de négligence et de tempête, nous nous sentons quand même plus rassurés. Je sais bien que on pourrait encore faire des efforts et qu'il faudra sans doute le faire à l'avenir, mais
des efforts, ce sont souvent des moyens, oui, des moyens et de l'argent qui manquent.
Oui, mais depuis qu'on a mis quand même ce rail, qu'on a fixé les endroits, qu'on a mis une autoroute en mer, finalement, il y a quand même moins d'accidents.
Vous les tenez à quelle distance les bateaux maintenant?
Écoutez, la philosophie du système, c'est reporter le plus loin possible les plus dangereux. Hein, donc, c'est-à-dire les bateaux qui transportent en vrac des hydrocarbures ou des produits chimiques.
60 km
donc,
de nos côtes.
C'est entre 45 et 60 km.
Et que, mais que, quand on réfléchit quand même à ce qui s'est passé il y a 15 ans sur ces côtes, la Moco à 1,5 km des côtes, non, je veux dire, ça.
Alors, effectivement, ça n'aurait pas dû se passer. On aurait dû prendre, effectivement, bon, c'est facile à dire après coup.
Non, mais 1,5 km des côtes, sous les fenêtres des gens.
Oui, mais il y a forcément un moment. Bon, mettons-nous en dehors du cadre de la pointe de Bretagne. Il y a forcément un moment où un bateau arrive près d'une côte, ne fût-ce que pour arriver dans un port. Et là, on a des possibilités d'accident. Enfin, c'est l'affaire de la Jency récemment à la Corogne.
Oui, madame, si vous permettez, vous avez demandé au sénateur Arzel s'il se sentait bien plus en sécurité.
Plus à l'aise, oui.
Oui, plus à l'aise. Depuis que le cross, c'est que le cèdre existe. Si vous permettez, je mettrai le cèdre en énième position.
Dites-nous d'abord ce que veut dire cèdre.
Oui, c'est le centre de documentation, de recherche et d'expérimentation sur les pollutions accidentelles des eaux. Nous sommes un groupe d'experts. Nous sommes là, en quelque sorte, j'y reviendrai, mais en temps de paix pour préparer l'armée et en temps de crise pour conseiller le général sur ce qu'il faut faire avec son armée. Je résume. Mais je voudrais revenir sur un point important, parce que le général, pour ce qui concerne la mer, c'est la marine. Et il n'y a pas de représentant de la marine aujourd'hui. Mais madame, si depuis 78, nous n'avons pas eu d'Amoco, je crois qu'il faut citer deux points. Ce que le directeur du CROSS citait avec la nouvelle législation sur la mer et les efforts de la marine qui a en permanence près des remorqueurs de haute mer, prêts à intervenir, et un amiral ou des amiraux, suivant l'endroit considéré, toujours prêt à mettre en demeure les armateurs pour éviter des accidents. Ça, c'est fondamental, et nous avons, au travers de cette organisation, énormément diminué le risque. Et je crois que c'est le point à mettre en évidence aujourd'hui autour de cette table.
Si, pour compléter juste sur un point, pour la MOCO, il y avait un énorme vide juridique. C'est-à-dire que nous n'avions pas d'autorité sur le plan maritime capable d'imposer à un armateur de prendre un remorqueur. Or, l'évolution positive, ça a été ça. C'est qu'on a donné à une autorité les pouvoirs de contraindre quelqu'un à faire quelque chose pour le bien de la collectivité. Et cette autorité, c'est le préfet maritime.
Alors aujourd'hui, monsieur le directeur du Cross Corsen, est-ce que vous avez vraiment les moyens de nous faire obéir?
Oui, nous avons les moyens de nous faire obéir. Mais nous sommes dans le domaine maritime et en mer, on ne fait pas toujours ce qu'on veut.
Oui, c'est
parce qu'il y a la météo.
C'est le sens de ma question, si vous voulez.
Eh bien, voilà, ça peut être la météo, ça peut être une absence de moyens, hein, parce que quelquefois, nous avons en même temps plusieurs affaires qui présentent un caractère d'urgence et sur lequel on est obligé de travailler. Et il peut se produire des phénomènes de saturation qui feront que, passera au travers des mailles un bateau sur lequel on ne pourra pas agir.
Ouais. Est-ce qu'ils répondent tous aux appels que vous leur lancez?
Alors, ils n'ont pas d'obligation de répondre aux appels que nous lançons.
Alors, à quoi ça sert?
Alors, il y a plusieurs choses. Quand un bateau rentre dans un dispositif de séparation du trafic, si vous voulez l'autoroute que tout le monde connaît bien, au large de Ouessant, la réglementation internationale impose que les bateaux qui transportent un certain nombre de produits dangereux se signalent par des messages où ils donnent tout un tas d'informations qui nous sont utiles. Deuxième chose, les bateaux qui rentrent avec des produits dangereux ou qui sont en panne, enfin qui ont des avaries et qui rentrent dans les eaux françaises, ont cette obligation aussi de se signaler. En dehors de ça, notre travail, enfin le travail des opérateurs au Cross Corsen, c'est de questionner le maximum de bateaux pour avoir des informations et pouvoir gagner du temps s'il se passe quelque chose. Mais il n'y a pas d'obligation pour les bateaux pour répondre. Et pour vous citer encore un chiffre, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais je crois qu'il en faut un ou deux. Nous avons en gros 50 000 bateaux qui passent dans le dispositif de séparation du trafic, dans cette autoroute. Et sur ces 50 000, nous arrivons simplement à en identifier la moitié. Ce n'est pas suffisant, il faut progresser.
Oui, Ouessant.
Ouais, je vous rappelle encore que la vie est nulle, Stephen.
Ok, d'accord, bien reçu.
Voilà.
Allez, à plus tard.
Au revoir.
Oui, le Carrefour de Ouessant Trafic, bonsoir.
Oui, je vous le rendez-vous.
Je me trouve par 48 degrés, 40 minutes nord. et 5 degrés 35 ouest. Et on a un bout dans l'hélice, là, on peut plus manœuvrer. S'il avait été possible, s'il y avait une équipe de plongeurs.
Ouais, d'accord. Ouais, c'est ça, parce que j'ai un bateau de pêche là qui a un bout dans son hélice. Est-ce que vous avez un plongeur à bord éventuellement qui pourrait lui porter assistance? Ouais, merci.
Alors c'est la routine, ça?
Oui, là c'est pas méchant. Hein, donc c'est
pas méchant, mais enfin la nuit va tomber, le brouillard est épais.
Oui, bien sûr, il faut.
Il a envie de s'en sortir.
Il faut s'occuper de lui.
Oui, c'est net.
Il n'y a pas de problème.
Le Carflouze de Ouessant Trafic.
Ocean Traffic, Caroline Schulte calling.
Station calling Ocean Traffic, please stand by.
Roger, stand by.
Le Carflouze de Ouessant Traffic.
Oui,
on voulait savoir si vous n'auriez pas un collègue à vous qui serait dans les environs, là.
Pourriez-vous le prendre en remorque?
Ben, si, il y en a un, là, il doit y en avoir deux ou trois, là, un peu plus nordais que nous, là, mais... pour les contacter, quoi. Enfin, si, là, j'en suis en contact avec un, là.
Et le Carflouze de Ouessant Traffic. Oui, là, on avait appelé là, une vedette des douanes là, qui se trouvait dans la zone, là, mais le plongeur qui se trouve à bord ne sent pas très à l'aise pour pouvoir plonger, là.
Pas très à l'aise pour plonger, en plus, là.
Un plongeur qui ne sait pas plonger.
Oui, non, il n'est pas très... Si, il s'est plongé.
Il vient aussi, là. Bon,
on va essayer de se débrouiller autrement. Hein. On peut faire intervenir la SNSM éventuellement.
Ou alors, le plongeur de Westland, l'envoyer par la vedette, non?
Vous lui dites que oui, on peut faire intervenir la SNSM de Westland, mais c'est pas tout prêt, quoi.
Oui, on peut faire intervenir la SNSM de Westland, mais c'est pas tout prêt, quoi.
Ben ouais, on est à 2 heures de route.
Qu'est-ce qu'on peut faire?
Est-ce qu'on
fait sa demande, là, pour le plongeur de Westland, ou... remorqué par un collègue.
Suite et fin de ce volet numéro 3, notre enquête sur la Moukadis. Monsieur le directeur, quand on apprend comme ça brutalement que 800 personnes viennent de périr en mer, c'est, j'imagine, une très mauvaise nouvelle pour ceux qui ont dont la responsabilité est la sécurité maritime.
Oui, c'est une très mauvaise nouvelle, évidemment. Je dois dire que tout ce qui touche aux navires à passagers est pour nous une hantise. Nous travaillons quotidiennement à peaufiner nos procédures, à réfléchir pour savoir ce que nous ferons dans ce cas de figure, étant entendu que sur des catastrophes de grande ampleur comme celle-là, il faut mettre en œuvre beaucoup de moyens, c'est toujours des conditions très difficiles, puisque apparemment là ça se passait dans une tempête, donc ce sont des choses qui nous concernent évidemment, et encore une fois pour lesquelles on travaille, et on souhaite bien évidemment que ça n'arrive pas chez nous.
Alors, pour en revenir aux propos que nous tenions avant les informations de 18h, c'était de vous répondiez à ma question sur ceux des navires et des pétroliers qui faisaient la sourde oreille quand, par hasard, vous leur dites « restez dans votre position, etc., éloignez-vous ou tenez-vous à distance ». Alors, est-ce que la France n'aurait pas un projet sur un plan international de rendre obligatoire, justement, que ces bateaux répondent?
Oui, absolument. Je crois que on va avoir dans les années qui viennent une évolution notable dans ce domaine-là, puisque, comme vous le laissez entendre, la France a déposé un projet de recommandation auprès de l'OMI, qui est l'organisme de l'ONU qui s'occupe de la marine marchande. Et ce projet de recommandation consiste à faire en sorte que tous les bateaux qui approchent un dispositif de séparation du trafic se signale, c'est-à-dire disent qui ils sont, ce qu'ils transportent, où ils vont, etc. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, à plus long terme, on peut imaginer, beaucoup de gens réfléchissent, certains sont pour, d'autres contre, qu'on ait des systèmes automatiques de signalement, du style transpondeur, c'est-à-dire des machines relativement compliquées et sophistiquées, qui émettraient des indications, et nous, sur nos radars, nous verrions apparaître un signal qui permettrait de dire, c'est tel bateau bateau, et puis par tout un tas de manipulations et de références à des banques de données, on saurait où il va, et ce qu'il transporte, etc. Alors, donc les choses avancent, on n'en reste pas, à la marine en bois.
Monsieur Dukwedic, vous n'avez pas eu récemment des motions récentes concernant justement des pollutions qu'on a pu éviter de justesse, parce que tout n'est pas su dans la presse, j'imagine.
Non, tout n'est pas su.
Je crois qu'on va parler d'un cargo allemand qui dérivait comme ça, de façon un peu dangereuse. À la veille de Noël, je pense que c'est Madame Melguen qui m'en avait parlé. Tout simplement, je crois qu'on peut en donner la raison, parce que l'équipage avait trop arrosé le réveillon du jour de l'an.
Tout à fait, pour nous qui sommes d'astreinte 24 heures sur 24, comme le cross, le Noël et le premier de l'an sont deux points cibles, parce que, comme partout, les équipages ont le droit de s'amuser, mais c'est sensible en mer. Et il y a 3 ans, le lendemain du premier de l'an, nous avons retrouvé un cargo allemand qui, venant d'Irlande, je crois, avait oublié de changer de cap en arrivant dans la Manche. Et donc, il a abouti sur les côtes normandes. Ceci est une plaisanterie, mais madame, je crois que ce qui est important, c'est que malgré les efforts que l'on fait en matière tant de construction de navires que de formation des hommes, que de contrôle de la navigation, aujourd'hui encore, 80% des accidents sont liés à l'erreur humaine. Et en particulier aux notions de fatigue. Bon, il y a l'erreur du premier de l'an, on l'a dit, mais ce n'est pas la plus fréquente. Il y a l'impossible.
C'est une fois par an.
Oui, la nécessité pour les hommes d'en faire de plus en plus. Et on l'a abordé beaucoup ces derniers temps.
Enfin, pour les hommes, ou en tout cas pour les employeurs, de demander à leurs employés d'en faire de plus en plus.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et des équipages peut-être aussi parfois un peu sous-formés. En tout cas, deux paramètres sont à prendre en compte dans l'évaluation du risque à l'avenir. Les hommes, et ça, on ne remplacera pas quand même par de l'automatisme complètement, et la météo. Et dans les accidents récents, nous avons vu combien la météo est importante. Or, sur nos côtes, il y a au moins 3 mois dans l'année sensibles, avec quand même beaucoup de risques d'accidents, heureusement bien tenus en main par la marine et le cross.
J'ajouterais un troisième élément, c'est l'élément construction navale et l'élément technique. C'est-à-dire qu'on avait, il y a quelques années, pour Corsen, pour l'approche du dispositif, énormément de contrevenants, c'est-à-dire de gens qui prenaient la mauvaise voie, la mauvaise route. Eh bien, on en a de moins en moins. Actuellement, c'est de l'ordre de 2 pour 1000. Alors, c'est pas que les gens naviguent mieux, c'est que, technologiquement, ils font appel à des appareils plus sophistiqués, notamment le positionnement par satellite, et donc les erreurs de navigation deviennent plus rares. Elles existent encore, mais elles deviennent plus rares. Donc, c'est un troisième élément que je voulais ajouter sur la qualification qui me paraît fondamentale et l'autre élément que vous indiquez.
Alors, vous parliez effectivement de la fatigue des équipages et d'une certaine sous-qualification professionnelle. Vous m'avez parlé l'autre jour, quand on préparait l'émission, de la mixité aussi des équipages. Et moi, c'est vraiment un paramètre qui m'a vraiment, vraiment posé des questions. Vous me disiez qu'il y avait des Polonais et des Philippins qui travaillaient ensemble sur ces bateaux et que le plus souvent, ils ne pouvaient pas s'entendre, ils ne pouvaient pas se comprendre.
Oui, je crois que l'exemple récent du Braer l'a montré. C'était un équipage dont une partie était relativement récente à bord. Et il y avait plusieurs nationalités de représentés, dont je crois des représentants des pays de l'Est, qui coûtent peu cher, qui coûtent moins cher que les Philippins. Donc progressivement, la presse spécialisée s'en fait l'écho. Il y a sur les bateaux des Philippins depuis longtemps, qui ont remplacé, je crois, progressivement les gens de l'Europe du Sud, de plus en plus des Polonais. Et au-delà des Polonais, nous venons de voir récemment les Ukrainiens qui prennent des positions importantes dans les équipages. L'on peut imaginer assez vite deux problèmes. D'une part, en termes de qualification, je crois savoir que les normes ne sont pas les mêmes dans les différents pays. Et d'autre part, il y a la langue. Or, en cas de crise, il faut agir très très vite. Et quand on a du mal à se comprendre, en plus dans des conditions météorologiques désastreuses, tout ceci sont des facteurs de risque, bien évidemment.
Alphonse Arzel, oui. vous étiez au courant de
tous ces problèmes,
de ce qui pouvait se passer sur un pétrolier encore de nos jours?
Ben, je m'imagine un peu comment que c'est. D'ailleurs, Jean Bulot, le commandant Jean Bulot, dans le livre qu'il a écrit concernant le drame de la Moco Cadiz, il le dit bien, et là il veut surtout réhabiliter le personnel du remorqueur. C'était un remorqueur allemand qui a essayé de tirer la Moco.
Et qui a été mis en accusation pendant les premiers jours.
Nous l'avons assigné, nous, syndicat mixte, parce que nous on a assigné tout le monde. Hein. Ça nous a coûté de l'argent, parce qu'on s'est trompé.
On
a été condamné. Non,
tout
mais
le monde.
On a été condamné pour avoir poursuivi quelqu'un qui n'était pas responsable. Non,
c'est normal. général.
Il le dit bien, le commandant Bulot, dans son livre, que si l'équipage de la Moco, qui était, je crois que c'était des Italiens, en tout cas le capitaine était italien, capitaine Bardari, quand le remorqueur allemand a lancé les lingues pour essayer d'accrocher la Moco, ben, ils n'osaient pas aller la chercher. Ils ont, à combien de reprises ils ont essayé, c'est difficile de le dire, mais c'est vrai que c'était un manque de compétences du personnel. Parce que s'ils avaient pu l'accrocher, ils n'auraient peut-être pas tiré vers le large, mais ils l'auraient gardé au moins avant qu'il ne vienne s'échouer sur nos côtes. Parce que quand on parlait tout à l'heure de la proximité du pétrolier de Port-Sal, ben, on s'imagine, nous, que pour arriver jusque-là, il a fallu parfois de grosses vagues pour le faire franchir des rochers qui devaient l'empêcher d'avancer. Et il devait, porté par le flot, il est venu s'échouer donc à peu près à 2 kilomètres du bord. C'est qu'il était dans un endroit mais terrible, redoutable. Les marins connaissent bien les roches de Port-Sal. Partout, tout marin qui a fréquenté notre région garde un souvenir de ce secteur où c'est truffé de rochers, où il faut être qualifié pour pouvoir circuler. Le pétrolier n'avait rien à faire dans ce barrage. Il n'aurait jamais dû venir jusque-là.
Monsieur de Ducouédi, qu'est-ce qu'il vous arrive de naviguer au large de Port-Sal?
Oui, oui, il m'arrive de naviguer.
Et vraiment, ça n'est pas facile?
Ah ben, tout le coin de la pointe de Bretagne est un coin magnifique, mais très mal pavé. Il faut des marins confirmés. Mais je le dis avec grand plaisir, parce que c'est un peu une aristocratie de la mer qui fréquente ces secteurs et qu'il fréquente sans problème.
Marthe Melguen, vous avez parlé de votre mission en temps de paix, qui est celle à la fois de l'évaluation donc des risques de pollution et aussi de la formation des gens, des techniciens qui peuvent faire reculer les marées noires en temps de guerre.
D'abord, en temps de paix, il faut peut-être préciser que nous sommes aussi chargés de faire évoluer les techniques et moyens de lutte, que ce soit les moyens de lutte en mer, donc qui seront utilisés par la Marine nationale, ou les moyens de lutte sur le littoral, qui seront utilisés par les équipes du ministère de la mer, ou même en eau intérieure, par le ministère de l'Intérieur. Donc, nous aidons à faire évoluer ces techniques et matériels, et nous sommes chargés de les évaluer avant leur acquisition par l'État français. Donc, si nous prenons par exemple des barrages utilisés par la marine, nous avons eu à un moment donné à nous positionner sur leur efficacité et à la suite de cela, la marine a acheté sur recommandation par exemple des barrages. Aujourd'hui, on se penche sur d'autres problèmes qui sont plutôt l'adaptation de petits pétroliers ou de supply pour l'utilisation en matière de lutte anti-pollution. Là aussi, nous faisons des recommandations qui sont suivies par la marine dans la mesure où elle peut avoir les moyens de suivre les propositions de politique.
Alors, en cas de marée noire, comment est-ce que vous agissez? Comment est-ce que vous êtes capable d'agir?
Bien, en cas de marée noire ou bien en cas d'accident de conteneurs remplis de produits chimiques très toxiques, comme le lindane tombé à la mer, notre premier rôle, c'est d'aider à l'évaluation de l'étendue, déjà, du danger. Alors, pour les hydrocarbures, le danger pour les hommes est faible, pour les produits chimiques, il est très grand. Donc, il faut assez vite, si nous prenons par exemple les produits chimiques, pouvoir, grâce à des outils de modélisation, décrire les zones de périmètre de danger dans lesquelles, par exemple, il faut interdire la circulation, ou apprécier de quelle façon l'équipe de la marine va pouvoir intervenir sur un chimiquier en difficulté. Ça, c'est pour la partie chimie. C'est un problème très différent des hydrocarbures, beaucoup plus préoccupant en cas d'accident. Pour les hydrocarbures,
rapprochez-vous.
Pardon, dont on parle très peu,
oui,
en fait.
Oui, dont on parle peu. Hein,
le pétrole fait la une,
oui, il prend
mais
toute la place,
il y a
oui.
tout le transport oui. de produits chimiques qui est considérable et pour lequel les pollutions seraient dramatiques.
Oui. Alors, dans le cas d'une marée noire, un nouvel Amoco, on ne l'aura pas, parce que, comme on vous l'a dit, aucun autre pétrolier ne pourra venir sur les rochers de Port-Sal, ça c'est clair. Mais nous pouvons quand même avoir un accident relativement important, en particulier par météorologie désastreuse, hein, ça existe. Donc notre rôle sera d'apprécier la dérive de la nappe polluante, de façon à pouvoir conseiller sur les côtes qui sont à protéger en priorité, en fonction de l'économie, que ce soit le tourisme, que ce soit les pêches, que ce soit l'aquaculture. Et nous conseillons qui, dans ce cas-là, pour ce qui est de la protection de la côte, le ministère de la Mer. Mais ça sera aussi de pouvoir dire, en fonction du type de pétrole, et c'est à nous de l'apprécier dès qu'il va à la mer. Est-ce que c'est un pétrole qui va avoir une évaporation importante? Est-ce qu'on peut le disperser? Au contraire, est-ce qu'il est d'une densité telle qu'on ne pourra pas utiliser de produits, de traitements, mais qu'on va essayer de récupérer? Essayer de récupérer, ça veut dire quoi? C'est prévoir la météo avec au moins 3 jours d'avance, parce que les moyens de lutte ne se mettent pas rapidement en place. Donc, c'est prévoir la marche de l'ennemi. Je reviens à mon image militaire, parce que je trouve qu'elle est pas mal. Donc, quel est l'ennemi et comment va-t-il se déplacer? Et en fonction de ça, nous allons proposer aux autorités, c'est-à-dire à la marine pour ce qu'elle va pouvoir faire en mer et au ministère de la mer pour ce qu'il va pouvoir faire sur le littoral, ce qu'il serait bon de faire et quels sont les délais d'intervention possibles. Alors, la France, si vous me permettez, a fait des efforts énormes en matière d'équipement il y a 14 ans. En gros, c'est 3,5 milliards d'équipements qui ont été acquis dans les 14 dernières années. Nous avons été très forts. Nous avons été les premiers d'Europe à l'époque.
Est-ce que nous le sommes restés?
Malheureusement, non. Nous ne sommes pas les derniers de la classe, mais à peu près aussi mauvais que les autres Européens, du moins si l'on prend l'Angleterre, si l'on prend l'Allemagne est meilleure. Les meilleurs sont en Norvège. En gros, en Europe aujourd'hui, ceux qui sont forts sont ceux qui sont autour des champs pétroliers. Et peut-être peut-on dire, madame, je crois avoir évoqué ce sujet avec vous, en Europe aujourd'hui, l'État est pauvre. Je dirais même que l'État n'a plus les moyens de sa politique dans le domaine de la lutte anti-pollution.
Vous voulez dire que nous avons perdu notre, l'ambition qui était celle de le,
l'ambition, nous
du
l'avons.
Projet d'origine.
Ah, nous avons l'ambition, elle ne cesse d'être là, mais les moyens, nous ne l'avons pas. Et tous les acteurs que nous sommes à la recherche de moyens pour être au niveau de la mission qui nous a été donnée. C'est vrai de la marine, c'est vrai de notre petite organisation. Et ce que je vois en tant que directeur du SAD depuis bientôt 8 ans, j'ai une admiration énorme pour ce qui se fait de l'autre côté de l'Atlantique aujourd'hui, mais on pourrait dire de l'autre côté de la Manche. C'est-à-dire où aujourd'hui, non pas dans les organismes qui dépendent de l'État, mais dans les coopératives qui sont financées par les pétroliers. De l'autre côté de la Manche, nous avons un centre de lutte anti-pollution qui est au service des pétroliers uniquement, de très grande capacité, de très grande qualité, qui bientôt aura un centre très supérieur à celui de Brest, créé il y a 14 ans. Mais aux États-Unis, nous avons le contre-coup de l'Exxon Valdez aujourd'hui. Ils sont dans la position où nous étions il y a 14 ans après la MOCO. Ils viennent d'investir pour 7 milliards de francs en moyens, en centres, 5 grands centres de lutte anti-pollution. Et ils ont une flotte de 16 navires construits en Norvège et équipés des moyens les plus puissants en matière de lutte anti-pollution aujourd'hui. Vous pensez que devant
ça vous laisse rêveuse.
Oui, nous aurions aussi un peu l'ambition de rattraper le retard.
Christophe Rousseau, vous êtes au CEDRE, qui est donc un centre de lutte contre les pollutions marines, chargé de la formation et des relations extérieures. Vous nous avez amené en dehors de Brest, du côté du port, et nous sommes là face à une station d'essai où l'on lutte contre la pollution avec, je crois, un des éléments de récupération de la MOCO.
Alors, nous avons profité d'une infrastructure qui avait été créée au moment de la MOCO Cadiz pour stocker d'abord et ensuite traiter les déchets de la MOCO Cadiz. C'est une fosse de stockage, donc, étanche, que nous avons récupérée quand le CEDRE s'est installé, donc juste après la MOCO, en 79, pour pouvoir disposer d'une aire d'expérimentation et de formation en utilisant du pétrole. Chose que personne au monde ne fait en réalité.
Donc vous avez recréé ici une sorte de milieu littoral, c'est ça?
Voilà, nous avons sous les yeux une espèce de plage avec un plan d'eau. Nous avons recréé un faciès littoral avec des murs, des blocs de rochers, des galets, du sable. Et cet ensemble nous permet de travailler d'abord pour tester des équipements. Nous avons également la possibilité de fabriquer des pétroles de nature différente en les, en les vieillissant notamment, et donc de les mettre sur l'eau et d'essayer des systèmes de pompage, des systèmes de récupération, d'utilisation des barrages, des produits absorbants, enfin toutes les techniques qui sont à notre disposition pour lutter contre la pollution, nous pouvons les tester, pas vraiment en grandeur réelle, mais dans des conditions qui sont proches de la réalité.
Alors qu'est-ce qui se passe concrètement, je veux dire, là dans cette... Dans ce bassin, vous jetez du pétrole, c'est ça ?
Oui, on épand du pétrole et on teste des appareils, plutôt des techniques concernant la récupération sur l'eau. Donc, vous voyez, il y a très peu d'eau, mais c'est plutôt tout ce qui concerne les techniques de lutte sur les plages, hein, sur le littoral. Donc, le pompage, le confinement, la récupération, le nettoyage et la restauration des plages. Des plages de sable, puisque vous voyez, nous avons quand même une grande étendue de sable, et puis des plages à caractère plus rocheux, comme avec ces cellules que nous avons construites avec des rochers, des galets, etc.
Et vous faites ces essais à quel rythme ?
Alors c'est très variable. C'est à la fois des essais, des expérimentations pour les fabricants français ou pour l'État français qui nous paye pour tester les équipements ou les produits avant de l'acquérir, de les acquérir pour les mettre dans leur stock. Et puis aussi pour la formation des personnels. Donc ce sont ces deux utilisations qui sont les utilisations principales de cette zone.
Alors est-ce qu'il y a des stagiaires d'un peu partout qui viennent ici ?
Ah oui, tout à
fait.
Et
même du monde entier, là où il y a des risques de pollution ?
Du monde entier, oui, puisque nous organisons des stages à la fois pour les administrations qui sont chargées de la lutte en France, mais nous organisons aussi des stages pour les compagnies pétrolières, leur personnel français ou leur personnel étranger. Et puis nous avons des stages, notamment des stages pour la communauté européenne, où là nous avons des gens qui viennent de tous les pays de la communauté se former à ces techniques et patauger dans le pétrole, chose que généralement ils ne font pas ailleurs. Nous avons également des stages pour l'Organisation Maritime Internationale. Souvent ce sont des gens de terrain, mais aussi des gens des états-majors qui gèrent en quelque sorte la lutte anti-pollution dans leur bureau et qui n'ont jamais vu une goutte de pétrole. Alors quand ils ont pataugé une semaine dans le pétrole, je vous assure que quand ils rentrent chez eux, ils ont une autre conception des affaires.
Alors vous dites, Christophe Rousseau, il y a eu la Moco, bien sûr, mais il y a eu d'autres marées noires dans notre région qu'on a tendance à oublier.
Oui.
Une marée noire que vous n'oubliez pas, c'est le Tagnon.
Oui.
Alors pourquoi ?
Ben, je ne l'oublie pas parce que le Cèdre venait d'être créé, c'était sa première grande expérience, et que pendant le Tagnon, il y a quand même eu environ 12 000 tonnes de pétrole qui ont été déversées à l'eau, c'était un pétrole assez visqueux, donc qui a fait des émulsions, de la mousse au chocolat, si vous voulez, ce qu'on appelle la mousse au chocolat, sur le littoral, donc beaucoup de déchets récupérés, et ça a pollué pratiquement 300 km de côte entre les côtes du Nord et le Finistère, et c'est un travail qui a duré plus de 6 mois. Donc la Moco, pour nous, c'est du passé un petit peu. Et puis après, il y a eu d'autres pollutions sur le littoral français. Il y a eu l'Amazone en 87, toujours ici devant, avec un pétrole qui était encore plus visqueux. Pollution plus limitée, mais un cas intéressant quand même. On a eu le Haven l'été d'avant. Donc il y a d'autres pollutions importantes en France et à l'étranger auxquelles on a participé, des pollutions de grande ampleur qui font que pour nous, notre expérience avance tous les jours et que la Moco, eh bien, c'était un peu les balbutiements de la lutte anti-pollution.
Monsieur Dugouédic, on vient de citer quelques-unes des marées noires qui ont largement pollué les côtes de la Bretagne, mais j'apprends aussi qu'il y a du dégazage permanent sur les côtes de la Bretagne. Et ça, je veux dire, c'est une chose qui scandalise absolument tous les scientifiques, tous les observateurs, tous les amis de la nature.
Ah ben, il faut, effectivement, c'est quelque chose de scandaleux. Le dégazage, ce sont des bateaux qui nettoient leurs citernes ou qui se débarrassent de produits qui les embêtent et qui veulent pas déverser dans les ports parce que ça se fait, il faut payer. Et donc, tous ces produits sont jetés à la mer entre chiens et loups et c'est ce qu'on, ça se traduit sur les plages par ces boules mazouteuses enfin, c'est une action que tout le monde réprouve, bien évidemment. Et contre ça, bon, pour l'instant, il n'y a pas grand chose à faire. si ce n'est un travail d'information, de persuasion, etc. Et peut-être que petit à petit, les choses évolueront.
Alors, rapidement, la proportion de bateaux en irrégularité qui passe devant le Grosskorsen.
Bah écoutez, je crois que là-dessus, il faut voir que toute l'action cohérente qui a été menée depuis 20 ans, finalement se traduit un peu dans les chiffres. C'est-à-dire que nous n'avons pas eu, je touche du bois, de catastrophes majeures depuis quand même pas mal de temps. Il faut que ça continue et on essaiera de faire en sorte que ça se passe comme ça. Et surtout, ce que je vous disais tout à l'heure, au début, quand le rail s'est mis en place, c'était 50% des bateaux qui se présentaient dans le mauvais sens, enfin qui étaient en contravention, et on en est actuellement à 2 pour 1000. Donc il y a quand même une évolution qui est remarquable et qui est à souligner.
Marthe Melguen, un mot de conclusion et ensuite une date que M. Arzel voudrait donner aux auditeurs. Mais est-ce qu'on peut dire que l'Europe vous aide quand même dans cette affaire, ou est-ce que c'est la confrontation d'intérêts qui sont divergents?
Parce madame, l'Europe ne nous aide pas. L'Europe attend au contraire de chaque pays qu'il apporte sa pierre au moulin. Nous faisons partie de la force d'intervention de la CE, comme la plus par des autres pays, et en cas d'accident, en particulier en Europe du Nord, nous allons apporter notre savoir-faire, voire proposer l'apport du matériel français dans ce cadre-là. Non, l'Europe ne nous aide pas, si ce n'est avec un souci de cohésion ou de cohérence dans l'action menée.
Mais la Manche nous est commune aux Anglais, aux Britanniques et à nous. Est-ce qu'il pourrait y avoir une politique commune? Non, puisque les Britanniques sont d'abord des assureurs et des banquiers, et que, bon, ont des intérêts un peu divergents avec ceux de la France.
Je ne parle que pour le secteur que je connais bien, qui est la lutte anti-pollution. En dehors de l'Europe, nous avons quand même des coopérations qui sont bien établies au travers d'accords internationaux qui existent et où chacun se doit assistance mutuelle. Mais c'est l'auberge espagnole. Chacun arrive avec ses moyens. Or, je vous ai dit que progressivement, dans cette auberge, nous sommes tous très démunis. Et vous me proposez un mot de conclusion. Madame, je me permettrai de dire que après la Moco Cadiz, l'État, en France, comme dans les autres pays, s'est considéré responsable de la lutte anti-pollution et a mis les moyens nécessaires pour ça. Aujourd'hui, l'État, je crois, doit évaluer ses moyens et voir si le champ de ses prérogatives doit demeurer aussi vaste ou si, au contraire, il doit, comme aux États-Unis, unir ses moyens avec ceux des pollueurs, c'est-à-dire les pétroliers, qui ont des moyens très supérieurs aujourd'hui, essayer d'aller vers un minimum de coopération dynamique, comme on le voit actuellement aux États-Unis.
Alors malheureusement, nous n'avons pas le temps d'enchaîner, mais je voudrais moi aussi faire une toute petite réflexion. Mais c'est vrai que si les conditions de circulation deviennent trop draconiennes au large des côtes françaises, eh bien il est vrai que les pétroliers vont débarquer par exemple à Rotterdam, et ça sera autant de pertes pour les ports français?
Non, parce que la Manche est un passage obligé. Et Rotterdam est au bout de la Manche et ils passeront par chez nous.
Monsieur Arzel, vous vouliez convier les auditeurs du Pays d'ici à un spectacle qui va avoir lieu à Port-Sal.
Oui, nous avons décidé que le 3 juillet prochain, le samedi 3 juillet, il y aura un spectacle qui sera organisé tout près du lieu de la catastrophe. Pourquoi nous avons voulu cela? C'est parce que nous avons été, nous, portés par l'opinion publique. Si nous avons tenu pendant si longtemps dans cette procédure, c'est parce que nous sentions que la population était derrière nous et on voudrait maintenant lui apporter une certaine reconnaissance et un certain remerciement en lui offrant ce spectacle qui sera donc gratuit et auquel toute la population est invitée.
Hommage à la détermination des Bretons. Merci à vous tous de votre participation. Demain, autre univers, cette fois-ci romanesque, policier et breton, toujours breton, avec Jean-François Coetmeur, écrivain, en compagnie de François Péririn, peintre de la marine, et de Goulang Kervela, écrivain. Équipe de réalisation, Guy de la Ville-Marquet, Gilbert Arnold, Marie-Ange Garando.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 février 1993.